D'accord, c'est week-end de Pâques. Et vous posez la question à n'importe qui dans la rue. Et vous dites, ah ben c'est week-end de Pâques. Ah oh, oui, c'est bien, ben, je ne travaille pas demain. Je vais aller au champ est ouvert, donc c'est bon. Et vous, madame, la Pâques, c'est quoi? Ah ben je ne sais pas très bien, mais finalement, c'est bon, c'est un jour de congé. Je pense que maintenant, ça va changer tout doucement. Et voilà, ça change un peu, oui, bon, on se retrouve avec des voisins. Mais finalement, la Pâques, c'est quoi? C'est juste une pensée. C'est un sujet très profond, hein, qu'il faut étudier dans l'Ancien Testament. Et juste pour vous dire, voilà, une pensée. La Pâques, c'est la fête juive, d'accord? Qui était instituée avant Jésus, d'accord? Était instituée par Dieu lui-même. Et pour nous aujourd'hui, la Pâque représente quoi? La mort de Jésus-Christ et la résurrection. La mort et la résurrection. Il est mort, mais il est ressuscité. Donc la Pâque, c'est Jésus lui-même. Et pour nous, pour toi et moi, la Pâque, si c'est juste un week-end par an, ben, on est des chrétiens. Pauvre, pauvre chrétien, non? Tous les jours, 24 heures sur 24 heures, nous vivons cette fête, la Pâque. Jésus est mort, et il est ressuscité, et il est vivant, et par la foi en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Alors, nous allons, j'abrège un peu, donc, évangile de Jean, tu as de l'eau. On va lire juste deux versets. Excusez-moi, quelquefois c'est pénible. Nous lisons ensemble l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 9 et 10. Je suis la porte. Qui parle? Jésus lui-même. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage, la nourriture. Et puis ensuite, voilà, on change complètement le sujet, comme si que voilà, c'était tout à fait autre chose. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà, donc je vous ai dit oui, la Pâque, Jésus, c'est Jésus. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant, nous l'avons accepté, accueilli dans notre vie. Et vous voyez que Jésus est une porte. Alors, une porte, c'est symbolique. Imaginez-vous si cette porte est fermée, d'accord? Si cette porte est fermée, bon, là, elle est ouverte, j'ouvre la porte, par cette porte, je passe. Mais si la porte, elle est fermée, ici, il y a la vie, pardon, ici, il y a la mort, et l'autre côté de la porte, c'est la vie. Il y a un contraste terrible. Imaginez-vous que vous êtes dans un état de mort, de condamnation, d'accord? Et vous savez qu'il y a une porte, qu'il faut passer par une porte pour pouvoir se retrouver dans la vie, mais la porte est fermée. Quelle différence? La mort et la vie. C'est la Bible qui nous parle. Donc Jésus est quoi? La porte. Alors, c'est très symbolique. Comment comprendre que finalement Jésus est la porte? C'est quoi la porte? Ben oui. La porte, ça veut dire je crois en Jésus-Christ je le reçois dans ma vie, amen. Je me réconcilie avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est la porte. La foi en Jésus-Christ me conduit vers la vie. Amen. Et ça, c'est formidable. Donc, il est question ici de la porte. Donc, passage de la mort à la vie. La foi en Jésus-Christ, bien sûr. Et puis, nous lisons aussi, il est question de salut aussi. Est-ce que tu peux... Voilà. Donc, vous voyez, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera quoi ? Sauvé. C'est pas juste, il se sentira un peu mieux. Il sera béni. Il va gagner un peu plus d'argent. Non ! C'est catégorique, amen. C'est lui qui, d'accord? Voilà. Si quelqu'un entre par moi, donc par la foi en Jésus-Christ, d'accord? Par cette porte, je rentre. Donc, je suis sauvé. Il est question du salut. Alors, le mot sauvé, salut, veut dire quoi? Une libération. Changement de la direction, tout simplement. J'allais. La Bible, elle est catégorique. Voilà. Donc, j'allais vers la mort. Je suis dans la mort. J'allais vers la mort éternelle. Et au moment où Jésus est venu toucher ma vie, m'accorder une révélation, j'ai décidé de changer la direction. Et puis souvent on est là, et pour changer la direction, c'est pas toujours facile. Alors, j'essaye. Ah, ça va mieux, hein, mais c'est pas encore ça. J'ai continué. Il y a les attaques. Je résiste. J'ai continué. La vie m'intéresse. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu un terrain. Mais pas à 100%. Je me retrouve là. À nous. On prie, on va au culte, on parle avec les autres. On téléphone, on étudie la parole de Dieu. Ça nous encourage, ça nous donne la force. Et puis, on continue, changer la direction. C'est pas encore ça. J'ai pas encore la pêche. J'ai pas encore vraiment le bonheur. Il me manque encore quelque chose. Alors, on y va, on continue, on lit la Bible, on prie. On téléphone chez Alex pour lui dire, Alex, prie pour moi. Joséphine, pense à moi. Non? Et on continue. Aidez-moi. Je dois changer ma direction. C'est pas bien là-bas. C'est la mort éternelle. Et tout à coup, un Fred qui est arrivé, puis il a boosté un peu, en disant, crois que tu verras la gloire de Dieu. Et puis, les saluts, je suis sauvé, je me sens bien. Oh, quel bonheur. Oh là là, quel changement. Je me sens vraiment bien, j'ai la paix, j'ai la certitude. De quoi? La vie éternelle, c'est pas juste me sentir un peu mieux, mais je suis transformé, je suis changé, et je vais continuer ma vie, parce que la vie, il y a la vie éternelle dans cette direction-là. C'est fini là. Donc, vous voyez, il est question ici du salut. Donc, le salut, c'est d'être délivré, libéré de la condamnation éternelle. Voilà, je change la direction. Et puis ensuite, je deviens prophétique. puisque je suis libéré, sauvé, je suis heureux, j'ai réalisé que certains ont prié pour moi. Certains m'ont témoigné. D'accord? Donc, voilà, je suis passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Et maintenant, je commence à penser à mes amis, à mes voisins, à mon quartier, mon pays, le monde entier. Pourquoi on prie? Peu importe où, dans quelle ville, l'essentiel, c'est d'aller arracher une âme de la gueule de lion comme toi et moi, nous étions arrachés. Je me souviens, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père était prédicateur, apôtre même, et je ne voulais pas, j'ai résisté, je disais, la Bible, c'est pas pour moi, je vais vivre ma vie. Et puis j'entendais la nuit combien ma mère pleurait, priait pour moi, elle criait, puis moi dans mon cœur, plus tu vas prier, plus je vais refuser, je ne serai jamais, jamais chrétien, je ne vais jamais accepter Dieu dans ma vie. Ce n'est pas pour moi, c'est pour des vieux. Alors, il y avait du boulot, ma mère, elle avait du boulot. Mon père était plus en action, il voyageait partout. Dans un pays communiste où il y avait la persécution, il prenait des risques. Et c'est ma mère qui payait le prix, on était à 8, très perturbant. Elle criait, elle priait Dieu. Alors qu'est-ce que je dois faire, moi, aujourd'hui, le fait qu'ils m'ont arraché, ma mère, pas qu'elle, mais aussi d'autres, certainement, ils m'ont arraché de la gueule de lion, du diable, ah ben je dois faire moi la même chose pour les autres. Amen. La première chose, je suis sauvé, je suis heureux, c'est formidable. Oh là là, c'est tellement bien avec Dieu. Moi, dernièrement, ici, avec Christian, on vit tellement de belles choses, des aventures, des choses que nous n'avons pas prévues. On a prévu une chose et puis Dieu nous donne autre chose. C'est tellement. Je vais vous donner quelques témoignages. Et c'est formidable avec Dieu. Donc, soyons prophétiques. Par exemple, samedi soir, c'était hier soir, j'ai assisté à cette réunion qui est lancée par quelques personnes, majoritairement par les jeunes, je pense, Alexis. Alors, vous appelez ça Opération Luc 10. L'opération Luc 10. Lisez à la maison. Si vous ne savez pas par cœur ce que ça veut dire, l'opération Luc 10. Luc, l'évangile de Luc 10. Voilà. Et là, on a parlé, ils ont parlé, j'étais interpellé. Je me suis dit, c'est des jeunes. Et voilà, ils se préparent pour aller annoncer la parole de Dieu à 2-3 personnes. Parce qu'on m'a dit, on ne gagne pas assez d'âmes, on est des chrétiens. Et moi, j'ai ajouté, oui, nous sommes un club chrétien. Ça vous intéresse, hein? Vivre un club chrétien? Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Oh, je suis bien, formidable. Oui, mais il faut aller plus loin. Amen. On est appelé pour... Jésus est mort et il est ressuscité et il n'est pas parti juste vers ses amis pour boire le café, puis jouer au ping-pong, un peu au foot, et puis rouler un peu au Mercedes, à la mer, etc. Non. Il n'y en avait pas, Antonia, il n'est pas bien lui. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Bon, on actualise. Hein. Alors Jésus est parti et il s'est retrouvé. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Jésus, oui, il a dit, venez, venez à moi. Mais il allait vers les gens. Quelquefois, il se déplaçait pour une personne. Vous vous souvenez de cette histoire, il rentre dans la maison des Zachée. C'est ça? Et il était un homme riche, avec de l'argent. Il y avait 2 jaguars devant la maison, il y avait 3 Mercedes, il y avait 2 des chevaux. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait une villa, il y avait deuxième villa ailleurs pour bien vivre. Il l'a volé, c'était un voleur. Et Jésus rentre chez un voleur. Allez, voleur, donne ta vie à Jésus, donne ta vie. Réponds-toi, viens à Dieu et tu seras une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Voilà. Donc vous voyez, je suis impressionné ce que vous faites aussi l'espace café, par exemple. Si Jésus était là, vous savez quoi? Ben, il serait avec vous. Mais je suis sûr. Je suis certain. Ah, c'est bien, Pascal. Mais il est là. Ah, ben, c'est elle qui prêche. C'est tout à fait ce que je voulais. Hein. C'est formidable. Mais il est invisible, mais en même temps, il est là. Hein, Joanne, il est là. Joanne, quand il revient, et puis on ne se parle au téléphone, il dit, ah, c'était formidable, j'ai pu parler, on a prié, c'était bien. Pas beaucoup de monde, mais ceux qui étaient là, on a pu bien discuter, parler. Mais hier, c'était la question, nous faisons des actions, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui se convertissent. C'est ça. Hein? Voilà. Et moi, j'ai dit oui. La formule de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de formule. Si j'avais une formule qui marche, vous comprenez? Qui marche? Ah ben voilà, on y va, on prend celle-là. Regardez les efforts. Une fois de plus, je vais parler d'Embouchy. Elle m'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Elle m'a déjà proposé de donner un témoignage. Ben, il y a encore quelqu'un d'autre aussi. Je regarde la montre. Et Embouchy, ben voilà, comment elle est gagnée? Vous vous souvenez? Il y avait toute une équipe qui est partie à la braderie. Ils ne sont pas venus au culte, c'était dimanche matin. Une partie faisait le culte, il y avait moins de monde. Et deuxième partie, ils sont partis à la braderie, là, à Ronchin, là, dans la rue. Et puis je pense que vous avez. Qui était là? Qui était là? Ouais. Et vous avez donné du café, c'est ça, aussi. Et tout à coup, c'était Antonia, je pense. C'est toi qui as parlé à Embouchy? Ben pourquoi tu ne lèves pas la main? Encourage-moi au moins. Oui, c'est ça. Hein, c'est toi qui as apporté l'invitation. Et puis après, regarde, dimanche après, regarde. Et là, Embouchy ou non? Elle n'est pas là, elle était triste. Elle a rougi une fois, terrible. Et puis tout à coup, elle dit, Antoine, elle est là, elle est là. Oh, elle était stressée, elle est là. Regarde là-bas, elle est là. Oh là là. Mais quelle joie, quelle joie. Bon, je caricature un peu. Hein. Pardon? Juste un petit peu. Regardez, un effort. On aurait aimé avoir au moins 10 personnes sauvées. Cette matinée-là. Non, c'est mieux, non? Mais bon, on a quand même Embouchy. Mais si on ne va rien faire, si on n'avait rien fait, on n'aurait jamais rencontré Embouchy. C'est vraiment une bonne fille. Attends, moi, j'aurais regretté. Hein. Alors, vous voyez, c'est beau tout ça. Alors, deuxième point important, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà, si tu peux encore projeter là, pour que vous puissiez visionner ce verset-là, c'est la parole de Dieu qui dit, c'est Jésus lui-même. Parce que vous savez, on a un peu peur de parler de Satan, de combat, de démons, de la mort. Et c'est tellement biblique, c'est la mort ou la vie. Mais la parole de Dieu traite la vie ou la mort. Amen. Mais nous avons choisi la vie. Ah ben, il faut aller chercher ceux qui sont encore dans la mort. Voilà. Donc, regardez, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. le voleur, il vient vers moi pour me détruire, pour me voler des choses, pour me voler des bénédictions, tout ce qui est positif en moi. Le diable, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il rôde autour de moi comme un lion rugissant. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Égorger. Détruire, casser complètement. Mais voler des choses. Il rôde autour de moi comme un lion rugissant. Il vient pour voler la vie que j'ai, l'espoir, l'espérance, la certitude, la détermination. Il vient détruire ce qui est positif en moi. Il attaque les couples. Amen. Il vient voler l'unité dans ton couple, l'amour dans ton couple, les bonnes intentions que tu as dans ton couple. Il vient te voler tous ces facteurs. Ensuite, c'est la séparation, le divorce. On n'est pas là pour juger, mais on voit ce qui se passe autour de nous. Amen. Il vient nous voler l'argent. Quelquefois, on a difficulté de donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui nous subventionne. Les églises, nous vivons avec les offrandes, avec les dîmes. La dîme, c'est juste minimum, c'est la base. Non? Allô? Il vient nous voler. Quelquefois, ça arrive comme ça, il y a des chrétiens qui disent « Ah ouais, je ne peux pas vivre. » Mais bon, il y a une tuile quelque part. Tu n'as pas donné la dîme, l'ennemi est venu te voler 3 fois plus. Ça arrive, non? Quelquefois, il y a des claques. Hein? Ah, c'est dur, quelquefois. Hein? Voilà, donc l'ennemi vient souvent nous voler aussi de l'argent, le temps. Qu'on vient essayer d'analyser un peu les choses, voilà, vous mettez beaucoup de temps pour certaines choses qui ne sont pas du tout constructives, mais on n'a pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu, au moins quelques minutes, prier, chercher Dieu, s'asseoir avec sa femme, en couple, pour dire prions pour les enfants, prions pour la famille, prions pour la belle-mère, même si elle n'est pas belle, tant pis, il faut la sauver. Alors voilà, regardez, Emmanuel est là, ce matin, vous ne le voyez pas souvent. Emmanuel est mon disciple. Combien il m'a rendu des services, souvent il est malade. Voilà, moi je vis avec lui différemment. Quelquefois il y a des chrétiens comme ça, voilà, on les accompagne différemment. C'est lui qui est venu me voir une fois quand on a cherché le bâtiment. Antoine est à bâtiment. C'est lui. Dieu sait ça. Donc vous voyez, il y a des talents, quelquefois invisibles, que Dieu veut exploiter pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste prêcher, ce n'est pas juste jouer, ce n'est pas être visible sur l'estrade. Il n'y a pas que ça qui joue. Il y a tellement de choses. Il est venu me dire, il y a un bâtiment à vendre ici. Je vous ai déjà raconté. Déjà, il y a un moment. Et quand je suis entré dans ces locaux-là, quand j'ai vu l'hangar, j'ai dit, plus jamais ça, c'est impossible. C'est impossible de faire une salle de ça. C'est un hangar terrible. Hein, c'est ça, Emmanuel. Puis les finances. Puis j'ai laissé tomber, j'ai dit non à un agent immobilier. Et puis l'agent immobilier, il l'a contacté, il lui a dit, va voir ton pasteur, dis-lui qu'on va baisser le prix, on va négocier. Et il m'a téléphoné et j'ai dit, non, c'est pas la peine, même si c'est même si on nous donne, c'est un cadeau pourri. Quoi. Pardon, c'est ça, on dit comme ça. Et puis finalement, pour lui faire plaisir, hein, je suis allé voir, j'ai dit non. Troisième fois. Alors après, voilà, on a baissé les prix, on a acheté pas cher. On a acheté l'Oasis, c'est encore Emmanuel. Parce que pour la grand-mère qui vivait là, c'est Emmanuel qui était pasteur là. Et elle a dit à ses deux filles, elle a dit, il faut aller voir le pasteur, c'est-à-dire Emmanuel. Parce que lui, il s'est arrêté et il a parlé avec la grand-mère. Il lui a raconté des histoires. Elle était contente parce qu'elle avait une canne, elle était vieille. Hein, très vieille, 90 ans par là. Très vieille. Et il parlait. Puis la grand-mère, elle était contente parce que quelqu'un est venu lui parler 5 minutes, 10 minutes sur le trottoir. Voilà, ça c'est Emmanuel. Et puis Emmanuel, voilà, il est venu nous voir, etc. Voilà les choses. Aujourd'hui, on est là. Mais pourquoi je vous raconte ça? Sa maman, elle était hospitalisée. Et j'ai dit à Emmanuel, c'est toi qui m'as demandé d'aller prier, je pense. C'était il y a 2 jours, 3 jours. C'était samedi, donc il y a une semaine. J'avais à cœur d'aller prier pour sa maman. 85 ans, depuis 5 ans, elle est très, très, très malade. Je rentre là-dedans, oh là là, dans quel état? Et puis, pour le moment, vous savez ce que je suis passé par tout ça. Donc, j'ai difficulté, je suis très sensible quand je rentre à l'hôpital parce que j'avais tous ces appareils, tous les tuyaux, tout ça. Je suis très sensible et ça ne m'intéresse pas vraiment aller à l'hôpital, mais là, je me suis dit, c'est une vie. On rentre là-dedans et puis je demande, Madame, quel est votre prénom? Elle m'a répondu, Georgette, c'est ça? Georgette. Ça va, Madame Georgette? Ben non. Ben oui, dans cet état-là. Madame Georgette, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Thierry, t'aurais fait la même chose, non? Toi, t'aurais fait même mieux, plus direct encore. Mais attends les résultats. Oui, elle a commencé à pleurer. J'ai peur de la mort. Voilà, Satan avait déjà la main. L'esprit de peur était là. La condamnation était là. C'est une brave dame parce qu'elle a élevé les enfants. Ton papa est décédé très tôt déjà, hein, c'est ça. Elle a vécu la misère, etc. Une femme courageuse. Et elle arrive là et elle me dit, j'ai peur de la mort. Mort. Et moi j'ai dit, Madame Georgette, vous savez quoi, je vais prier pour que vous puissiez avoir la paix. Et quand vous allez pour avoir la paix, voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, tu étais là, pour avoir la paix, il faut accepter Jésus. Si vous acceptez Jésus, vous aurez la paix. Et vous allez vivre l'éternellement avec Jésus. Et j'ai dit, Madame Georgette, est-ce que vous acceptez Jésus? En pleurant, elle m'a dit, oui. Et j'ai dit, Emmanuel, tu as entendu ce qu'elle a dit, ta maman? Elle a dit, oui. Alors je suis sorti de l'hôpital, même Emmanuel, sorti avec moi, on a laissé la voiture un peu plus loin. Je ne savais même pas où j'ai mis la voiture. Je me suis dit là. Bien, Emmanuel m'a dit là, on va dans cette direction-là. J'étais tellement dans la joie, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content. Voilà, le Seigneur m'a permis de conduire cette dame au dernier moment vers le salut. Et au moment où cette dame, maman d'Emmanuel, elle m'a dit, oui, tu as pensé à quoi? Au brigot sur la croix. un instant, il était sauvé. Ah ben, pourquoi pas cette dame? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Et la grand-mère, elle me rencontrera au ciel et elle va me dire, merci Antoine. Ah bon, pourquoi? Bah, tu te rends compte, tu es venu à l'hôpital, tu m'as prêché l'évangile, j'ai donné ma vie à Jésus, même si pendant toute la vie, ce n'était pas comme ça, mais maintenant, nous vivrons dans l'éternité, éternellement, tu vas me supporter dans l'éternité. Et moi, je vais dire, mais oui, Madame Georgette, je suis heureux, on est ensemble, on sera ensemble pour l'éternité. Bon, là, je caricature un peu parce que ça nous dépasse. Vous savez, la vie, oh là là, c'est tellement beau. Donc, vous voyez, l'ennemi, voilà, continuez la destruction dans la vie de cette dame. Et Emmanuel m'a dit, oh là là, sa mère, c'est-à-dire sa tante, elle aurait bien voulu voir ce moment, hein, tu m'as dit. Parce qu'elle était chrétienne, sa tante, elle priait pour sa sœur. Elle est décédée à quelques années. Emmanuel, il s'est fait un film. Ah, et si ma tante était là aujourd'hui pour voir que sa sœur donne sa vie à Jésus. Vous adorez avec moi ou non? Parce que vous me regardez comme ça. Allez, magnifique. On va applaudir le Seigneur. Oh. Alors, j'ai beaucoup de choses que j'aurais aimé vous partager, mais je vais juste sortir encore un témoignage, peut-être. Regardez, hein. Nous sommes allés en Bretagne. Et vous savez, bon, pour moi, les vacances, c'est bon deux jours, mais troisième, c'est déjà trop. Si je n'ai pas quelque chose à faire avec les seigneurs entre deux, et puis Christiane, elle sait, elle prie pour que le Seigneur laisse-les un petit peu calme, hein, pour qu'on puisse aller quelques jours. Et tout à coup, je reçois une pensée. Téléphone là. J'ai téléphoné, je passe les détails. On arrive là-bas, c'était des amis que nous avons vus déjà longtemps. Puis on arrive là, ah bonjour, ça va, comment vous allez? Nous, on connaissait pas du tout la situation dans laquelle il s'est trouvé. En quelques minutes, on a compris que ces gens ont prié pour avoir quelqu'un. Ces gens ont déjà prié pour avoir contact avec un ministère. Ces gens ont déjà parlé entre eux qu'on ne peut pas rester isolé tout seul. Ils sont une petite église de 30 personnes à Brest. Alors moi, j'ai dit quoi? Déjà, il y avait les découragements, les doutes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a l'ennemi qui commence à voler déjà l'espoir. Mais même si c'est une petite église, cette église est une plateforme pour sauver quelques-uns. Amen. Voilà, c'est un hôpital où on peut accueillir, on peut guérir, on peut donner des médicaments, on peut secouer un peu, non? Voilà. Ils ont déjà prié et tout à coup, ils reçoivent un coup de fil. J'arrive. J'arrive, nous on arrive. On vous prend sous nos ailes. À vous êtes avec nous. On va vous accompagner. On va vous donner. On vit tellement de belles choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église, ici à Lille, et le Seigneur me donne la pensée concernant à deux personnes, un couple, je pensais que c'était un couple. J'allais prier pour eux. Et j'ai prié pour ces personnes-là, et là, je suis dans une autre église et je vois ces personnes-là. Voilà, parce que là-bas, ils étaient en visite, tout simplement. Mais leur église était là. Et puis, j'arrive à prier pour ces personnes-là. Et puis, on m'a dit, Antoine, depuis que tu as prié pour nous, tout a changé dans notre vie. On vit des miracles. on n'était pas mariés, on n'est toujours pas mariés, mais là, on va se marier, on a décidé. Il y a les choses qui bougent, qui avancent. C'est formidable. Alors moi, quand je vois ça, oh Seigneur, c'est formidable, tu vois. C'est facile comme ça, hein, tu vois, c'est, quand le Saint-Esprit est là. Elodie n'est pas là ce matin. La même chose, ben, Christiane les invite comme ça, quand Dave est arrivé. Et Christiane, elle les a invités. Souvent, c'est moi plutôt qui invite qu'elle. Hein. Elle s'est organisée. Et moi, ce n'est pas organisé. Ça, c'est nous. Hein. Elle doit me gérer. Hein. Regardez, ce matin, on a baptisé 4 personnes ici. Voilà, et on me téléphone. J'ai oublié. Ben, en avant, il y a de l'eau, il y a les outils. Bon, pourquoi ? Elle m'a fait la tête. Elle vivait ça mal. Mais je dois faire la louange. Tu vas tout déplacer et tout. Elle voyait ça. Elle me dit, non, je vais juste bouger. Je vais juste bouger. Voilà, j'ai rien fait, j'ai rien calculé. Puis il y a Paul et Sandy qui arrivent plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Paul, il me dit, tu aurais dû dire, oui, mais même bon, tu connais, tu sais pas, hein, quand le vent souffle, bah, le vent ne m'a pas donné le rendez-vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais là, puis qu'est-ce qu'on va me dire? Et tout ça, j'ai fait des choses qui n'étaient pas du tout organisées, et les gens sont partis baptisés. 4 personnes. On a baptisé 4 personnes ici entre 7 et 8 heures. Ici, vous ne croyez pas, hein? Ah ben voilà, on les a baptisés. Et ça, j'aime avec Dieu. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est conduit par le Saint-Esprit. Je ne vous ai pas terminé l'histoire avec Elodie. Christiane les invite à la maison. Et voilà, ça a commencé par les. Voilà, ils s'observaient. Hein? Tout le monde, hein? C'est comme ça. Hein? Les jeunes, ben, ils s'observent un petit peu, voilà. Bon, eux, ils sont plus jeunes, 37 ans, je pense. Donc, voilà, ils s'observaient. Et tout à coup, Christiane les invite à la maison. Ce n'était pas programmé. Je n'ai pas dit oui. Voilà. Je rentre dans la voiture, elle me dit, ben, j'ai invité Dave. Et elle lui dit, ah bon, ben, c'est tout. Nous, on se fait confiance. Hein. Mais j'étais en même temps impressionné parce que je me suis dit, pour elle, c'est toujours organisé, c'est des rendez-vous, c'est une cartésienne presque. Voilà, et c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'ai une forme remarquable, ça je vous le dis. Hein. Et heureusement qu'elle est là, parce que moi, j'ai déjà donné 2 voitures, maintenant la maison, c'est fou. Moi, je donne même la maison. Mais elle me dit, stop, non, t'as la fin, t'as les enfants. Mais franchement, vous parlez avec elle, c'est comme ça. Hein. Il est trop beau. C'est... Mais bon, j'ai terminé l'histoire. Mais c'est pour ça, Antonia, elle vient à la maison quand elle veut. Même si ce n'est pas organisé, elle vient. Pousse-la. J'ai dit à quelques-uns, poussez la porte, ils venaient, pas de problème. Mais bon, ils savent que... Alors, on est là avec Dave et Elodie. Et moi, j'ai dit, vous savez, dans la vie, il faut être décidé, dans la vie, il faut être déterminé. Il faut sortir un peu quelquefois de la zone de confort. Hein, on dit ça comme ça. Il faut sortir un peu de tout ça. Et j'ai dit à maman, quelquefois, vous savez, il faut prendre des risques. Des risques. Et juste quelques jours après, on m'a dit, c'est bon, on va se marier. Mais c'était encore le secret. Et là, bon, maintenant, si on n'a pas parlé de ça, acceptez que ce n'est pas un mariage. Pour eux, le mariage, c'est quand lui va revenir. Ils ont juste été à la mairie pour signer. Rien de plus. Et respectez, voilà, ne les embêtez pas, parce qu'ils voulaient ça. Moi, il m'a dit, Antoine, est-ce que tu peux signer? Voilà, ben oui, mais pourquoi tu veux que c'est moi qui signe? Parce qu'on a pris la décision quand tu nous as parlé. Tu nous as dit, il faut prendre aussi un risque. Il faut aller. Et voilà, on a déterminé, on a pris une décision et maintenant on est tellement bénis. Ils ont signé le mariage, il est parti là-bas. Il va revenir, on va faire une bénédiction ici, spirituelle. On va se réjouir avec eux. Quand je vois ça, c'est vraiment formidable. Alors mes amis, qui veut ce soir, ce matin, bon, je suis déjà ce soir, qui veut Enfin, ce matin, on est là encore à midi, là, vous pensez déjà à votre poulet qui est dans. Mais qui veut dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que l'ennemi vienne vers moi pour me voler des trésors, des bénédictions, des talents. Alors, si tu as des choses autour de toi, puis tu dis, il faut que je sois libéré dans ce domaine-là, il faut que ça change là, il faut que j'aime un peu mieux mon mari, il faut que je sois plus gentil avec ma femme, il faut que j'achète une fois de temps en temps un petit bouquet à mon épouse, ce n'est pas encore fait. Je vous parle comme ça, symboliquement, mais c'est ça, non? Allô? Voilà. Ou il y a des personnes seules, peut-être il faut les soutenir, aider, etc. Et puis il faut sortir, peut-être il faut bouger de notre confort. Alors si c'est comme ça, ben, on va se présenter devant Dieu, dans le secret. Je ne vais pas faire un appel aujourd'hui, mais là où vous êtes, vous dites dans votre cœur, là il faut que ça change, là il faut que ça bouge. Là, je te demande, Seigneur, pour que l'ennemi, voilà, soit complètement paralysé et pour qu'il, quand il vient me voler des choses, me saisir de certaines situations, voilà, pour qu'il soit complètement paralysé, pour que je puisse avoir la victoire au nom de Jésus. Alors, ceux qui veulent, lève-toi devant le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est moi. Et on va prier ensemble. Seigneur, c'est moi. Je ne veux pas que l'ennemi vienne me voler la joie, me voler la vie, me voler de l'argent, me voler l'amour dans le couple peut-être. Moi, je suis déjà debout, donc je n'ai pas de problème. Je suis déjà là, j'en ai besoin encore. Alléluia, j'en ai besoin encore. Alors, on se lève devant le Seigneur, si vous voulez, voilà. Si vous êtes parfait, restez assis, c'est bon. Si vous êtes parfait, restez. C'est bon, je suis d'accord, il ne faut pas toucher les parfaits. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, je t'ai béni. Je t'ai béni, Seigneur notre Dieu, mais je vois devant moi un bouquet. Vous êtes comme un bouquet, et puis le Seigneur m'a dit, tu pries pour eux. Est-ce que vous acceptez? Seigneur Jésus, je te prie, alors ton prénom c'est? Oui, tu as déjà dit. Capucine, oui. Seigneur Jésus. Tu m'as montré un bouquet. Vous êtes comme un bouquet. Hein? Tu m'as montré, Seigneur, notre Dieu, un couple précieux. Et tu m'as montré aussi, Seigneur, qu'ils ont un grand cœur pour toi. Mais souvent, Seigneur,